Forêt.
Le podcast.
Podcast.
Bienvenue dans cette autre édition de Morais, le podcast. Cette semaine, il n'y a pas de The Living Room, il n'y a pas de top 3, il n'y a pas de salut. Je veux qu'on plonge tout de suite avec un récit personnel. Un récit personnel sur la liberté. On en parle de plus en plus. Ces temps-ci, bon, avec la victoire de Donald Trump à Washington, la liberté d'expression, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et les libertés en général. Mais il y a quelqu'un que je veux saluer qui est avec nous cette semaine, qui s'appelle Tony Peña. Oui, oui, c'est un pseudonyme, là. C'est pas le gars qui a joué dans majeur, là. On lui a donné un autre nom parce qu'il veut sa vie, puis il a sa vie professionnelle et surtout, il veut pas être reconnu. C'est quelqu'un qui dénonce Cuba. C'est quelqu'un qui dénonce le régime en place. Et il va le faire avec nous aujourd'hui. Il nous raconte le vrai Cuba. Pas le Cuba en plastique à 1000$ d'un tout inclus, où on y va in and out, puis on se trouve bien intéressant quand on amène des prismacolores aux petits pauvres, là-bas, parce qu'on l'a tout fait, là. Hey, on va y amener de la pâte à dents, ben, elle va être bien contente, là. Ils ont besoin de pas mal plus de ça. On en parle cette semaine avec Tony Peña.
Sujet dont on ne parle pas assez.
Qui n'est pas déjà allé à Cuba? Les voyages à Cuba, en fait, on va à Cuba parce que souvent, c'est moins cher. C'est moins cher qu'ailleurs. C'est moins cher qu'au Mexique. C'est moins cher qu'en République. Et Cuba, ben c'est communiste. Et à un moment donné, ben il fallait s'y attendre. Il y a des trucs qui tombent en ruine. On le voit quand on va dans des hôtels. Hein, je suis allé à cet hôtel-là quand il était neuf. Ben oui, mais il était bien correct. Mais au bout de 5 ans, les gens n'entretiennent pas les hôtels là-bas, ça tombe en ruine rapidement. Sans parler de la vraie vie à Cuba, les maisons, les rues, les écoles, tout tombe en ruine. Et là, on est rendu vraiment, en langage de jeux vidéo, next level. On est rendu avec des pannes de courant de longue durée partout sur l'île de Cuba et ça commence à dégénérer. Notre ami, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tony Peña, installé à Québec depuis plusieurs années, cubain d'origine. Comment ça va, Tony?
Ça va très bien. Merci beaucoup.
Es-tu en contact avec ta famille?
Oui, toujours, toujours. On est en contact quand même pas mal. On s'écrit via texto, cellulaire, une petite application WhatsApp, puis qu'on s'appelle une fois par semaine, une fois deux semaines, là, par vidéo appel. Là, puis, ça
qu'est-ce qu'ils subissent actuellement?
Ben, qu'est-ce qu'ils subissent? Tout. La famine, la pauvreté, le manque des courants, les manques des médicaments, c'est absolument tout. La répression, c'est surtout ça là, qui tue complètement les pays, les sociétés, les générations. La répression de la dictature, la police, les militaires, l'oppression envers le peuple, envers la liberté d'expression.
Comment ça s'applique? Comment ça se produit dans la vie quotidienne?
Ben, c'est bien simple. On vit dans un petit village, mettons, en Holguin, puis ton voisin, ou ton troisième voisin, tu ne le connais pas, ou tu le connais bien, tu ne le sais pas, qui travaille pour, on appelle ça l'organe de sécurité de l'État, mais tu ne le sais pas, parce qu'ils sont toujours cachés.
Il est anonyme.
Ah oui, ils sont tous anonymes, ou presque. Puis tu commences à faire ta business, tes affaires, petite ça pour mon père était ébéniste, puis il fait ses petites affaires, mais il n'y a pas de permis. Puis parce qu'il n'y a pas de permis à payer, puis tout est en noir, là, pratiquement. Là. Le marché noir, là, Cuba, là, c'est 99% de l'économie.
En pesos, en argent américain?
En pesos, en argent américain, en euros, en n'importe quoi que tu veux payer. Là. Puis c'est ça, mettons, ça commence par, OK, une petite délation, une petite surveillance, puis une visite de la police chez toi, ou d'un inspecteur, pourquoi tu as ça, pourquoi tu as fait ça, donne-moi les papiers des machines, donne-moi les papiers du bois, etc. Ça commence par ça, puis à la fin, là, quand ils pensent vraiment que tu fais beaucoup d'argent ou que tu essaies de vivre une vie normale, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils te coupent tout, ils viennent, ils t'arrachent tout, ils prennent tout, puis si tu es chanceux, tu payes une grosse amende, mais si tu n'es pas chanceux, ben, tu vas en prison. C'est de même.
C'est ça qui fait le plus mal.
Ben oui.
Ben oui. C'est l'impossibilité du peuple de se soulever. Puis on a vu les images avec les dernières pannes de courant. Ben on a les Cubains dans la rue qui jouent à des dominos, qui mettent des déchets dans la rue, qui peuvent rien faire, finalement.
Sont plus capables. Le peuple cubain est plus capable. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. En 1959, quand Fidel a pris les pays par assaut, on s'entend. Oui, on avait une dictature avant avec Fulgencio Batista, mais au moins avec ton salaire, avec ton travail, tu pouvais aller à l'épicerie, tu pouvais manger. Maintenant, avec l'argent, tu n'as même pas de nourriture. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a rien. Tout est sur le marché noir, puis ça coûte extrêmement cher. C'est le salaire moyen d'un salarié, là, c'est quoi, présentement, là, 2100, 2700 pesos. Ça vient peut-être à 12-15 $
Par semaine?
Non,
par
non,
mois.
Par mois. Là.
Par mois.
Par mois. Là.
12 piastres par mois.
Oh, oui, à peu près. En 12, 15, les médecins peut-être 30, 40. Mais quand on compare les prix, c'est 680 pesos un kilogramme de poulet. C'est mon père.
Tu peux pas manger.
Non, tu peux pas manger. Mon père retraité, il gagne 1500 pesos. C'est sa pension de retraite.
Est-ce que tu aides ta famille?
Oui.
Comment ça marche? Toi, tu es à Québec depuis plusieurs années, Tony.
Oui.
Tu as de l'argent. En fait, tu es un Québécois qui gagne un salaire ordinaire.
Vie normale.
Vie normale. Tu envoies combien d'argent à tes parents par mois?
Ben, ça dépend toujours. Là.
Comment ça fonctionne?
C'est très difficile. Avant, c'était plus difficile, Western Union, etc. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup d'applications, puis de petits programmes, puis de petits
Est-ce que ça transite par Miami parce que tu as une grande minorité?
Oui, oui, oui. C'est là que je voulais en venir.
Raconte!
L'embargo. OK, l'embargo. Ça, c'est un gros mot, peut-être dans les années 50, 60, 70. Là, pour le monde qui m'écoute, là, qui nous écoute, là, arrêtez avec l'embargo, OK? L'embargo, c'est juste pour le peuple. La haute société communiste, il n'y a pas d'embargo. Là. Cuba est rendu, si je ne me trompe pas, 5e ou 6e pays importateur de nourriture américaine des États-Unis. C'est 90% de la nourriture qui rentre à Cuba, ça vient des États-Unis. L'entreprise où moi je fais affaire pour envoyer la nourriture à mes parents s'appelle Cubayama. La maison maître est en Floride. Mais aussi, tu as des petits distributeurs là, à Cuba, là, dans différentes provinces, etc. Moi, c'est une application. Tu fais une épicerie en ligne. C'est là leur disponibilité.
Comme l'application d'IGA, tu me l'as montré carrément.
Exactement.
C'est Cubayama. Toi, t'achètes quoi, mettons, là, à tes parents? Là?
Ben, si ça dépend des produits qui sont disponibles, du lait en poudre, de la viande.
Tous les besoins essentiels.
Ben, ça, c'est papier de toilette, patadins, etc. Tout ce qu'on a besoin, mettons, j'ai fait une ou deux épiceries par mois parce que ça coûte cher aussi la vie ici. Et moi, malheureusement, je suis pas riche, comme beaucoup de Québécois. Puis on a la misère quand même à arriver ici, mais entre mes possibilités, moi, j'essaie de les aider le plus possible. Ça m'écoute à peu près pour une petite épicerie quand même correcte pour deux personnes, mes parents, en 120-150 $ ou deux semaines.
OK. Mettons que tu fais l'épicerie, mettons un mardi, tu mets tes trucs dans le panier, tu payes la compagnie de Miami.
Oui.
On est mardi. Tes parents ont de la bouffe quand?
Ça dépend toujours de leur disponibilité, comme j'ai dit auparavant, mais normalement, c'est en 24, 48, 72 heures. Pas plus que ça, honnêtement.
Et les entrepôts sont à Cuba.
À Cuba.
Gérés par qui?
Gérés par l'État. Gérés par la famille Castro, par ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Tout ça, c'est géré par les communistes.
Une business parallèle.
Exactement. C'est l'entreprise américaine est là, ils fournissent la nourriture. Aux autres, ils payent la cote au gouvernement, aux communistes, à la dictature. Puis la dictature, ils se ferment les yeux, puis tout est beau. Oh, j'ai rien vu. Ben, on paye la dictature pareil. Mais je sais que ça fait dur pour moi d'envoyer l'argent à la dictature. Mais mon point, c'est que mes parents sont là, ma famille est là. Moi, je m'en fous de la dictature pour le moment. J'ai besoin juste que mes parents aient de la nourriture, ma famille, pour vivre.
Est-ce que tes parents ont peur?
Oui.
Peur de quoi?
Peur des représailles, peur de peut-être parfois, moi je fais des commentaires dans mon Facebook ici, etc. Parfois j'oublie que je suis cubain encore, que j'ai de la famille là-bas. Puis je fais
t'as encore ton passeport?
J'ai encore mon passeport cubain. Je suis obligé à rentrer à Cuba avec mon passeport cubain. Puis quelques petits commentaires, mettons que je fasse dans n'importe quoi sous le communisme, c'est mon père, il m'écrit, fais attention, tu sais qu'on est surveillé, etc. Puis ça fait mal.
A-t-il raison?
Oui. Oui, oui.
Faut que tu te surveilles.
Et il faut que je surveille qu'est-ce que j'ai écrit.
Oui, comme l'entrevue qu'on est en train de faire.
Exactement.
sera écouté.
Ou bien, ça se peut.
Par des espions, par des représentants, peut-être du consulat cubain.
Exactement.
Qu'on salue.
Exactement, oui, bonjour.
Eux sont là pour maintenir le pouvoir.
Eh bien, oui.
Les Québécois adorent aller à Cuba. Question. Est-ce qu'on entretient le régime? Est-ce qu'on profite des Cubains? Ou au contraire, ça les aide? Est-ce qu'on les aide plus qu'on leur nuit ou au contraire?
Il y a les deux faces cachées de la lune, comme je dis ça. Oui, on les aide, on les donne l'argent au gouvernement, au communisme, à la dictature, quand on paye les voyages, etc., qu'on va là-bas. Puis, de notre façon, on aide aussi le peuple cubain, parce que je dirais que presque 80% de l'argent qui rentre au pays, c'est de l'argent des touristes, du tourisme, de l'entreprise de tourisme comme tel dans des hôtels.
Donc, si on n'y va pas, c'est pire.
Si on n'y va pas, c'est pire. Ça, c'est sûr.
Est-ce que ça aide vraiment quand on amène des trucs? Bon, on est déjà allé à Cuba, on amène des crayons de couleur, on amène des dentifrices et tout ça, du dentifrice, des brosses à dents et compagnie. Est-ce que ça aide vraiment ou c'est au contraire folklorique?
Non. Ça aide énormément. Vous ne le savez pas à quel point et ça aide une petite famille, une petite femme de chambre qui reçoit des crayons, un cahier, un déodorant, une pâte à dents, un petit parfum.
Mais elle est fouillée en sortant du resort, non?
Parfois oui, parfois non. La plupart oui, mais il y a la business aussi avec ça. Je passe quelque chose au gardien de sécurité. Les gardiens de sécurité, ils ferment les yeux. Pouf, tout est beau. Mais ça aide beaucoup, honnêtement. Si vous voulez faire de quoi, je parle aux Québécois, aux Canadiens, oui. Honnêtement, si vous voulez faire de quoi, donnez pas l'argent au gouvernement comme tel. Les voyages, OK, on s'entend, c'est déjà payé, point final. Mais amenez les soins de base. Beaucoup de pâtes à dents, médicaments. Les médicaments, c'est une chose super, super fragile. Tylenol, Advil, whatever, tout ce que vous voulez pour les enfants, surtout. Il n'y a rien dans mon pays. À rien. Amenez ça, donnez directement au peuple cubain. Donnez pas aux organismes. Donnez pas aux organismes, s'il vous plaît. Parce que ça va rester toujours au gouvernement. C'est la même chose que quand arrive un ouragan ou n'importe quelle catastrophe. Toutes les donations qu'ils reçoivent de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait le communiste? Il prend ça, puis il les revend aux Cubains. Avec quel argent? Ils sont déjà dans la misère.
Comment t'es sorti de là?
C'est une longue histoire. Moi, j'ai sorti de l'école de musique et danse. J'avais quoi, 17, 18 ans. J'étais engagé par une compagnie italienne dans mon petit village, un petit hôtel. C'est là que j'ai commencé à travailler. Après ça, les Italiens sont partis. Mais étant donné que j'avais un contrat avec eux, j'ai pu partir en Italie, en Europe. Surtout en Italie, que j'ai fait mon travail. Puis j'ai fait ça des allers-retours de temps en temps. Ça durait à peu près 4-5 ans. Mais c'était très difficile, surtout retourner. Retourner à Cuba, je savais que j'avais la sécurité collée aux fesses. Je savais que j'étais surveillé. Il y a du monde qui connaissait mon père qui a dit « Hey, ouais, ton fils, il vient de revenir. Fais attention, la sécurité, C'est pas évident. C'est pas une vie. C'est pas une vie. »
T'es-tu tombé en amour? C'est ça qui t'a permis de sortir? Est-ce qu'un Cubain ordinaire peut sortir?
Non.
Pourquoi?
Parce que la dictature...
Il arrive à l'aéroport, il arrive quoi?
Et il arrive rien. Tu peux pas sortir. Premièrement, pour obtenir un passeport, c'est super difficile. Je pense que depuis 5 ou 6 ans, c'est un petit peu plus facile, mais ça reste quand même, t'es surveillé, si toi pour...
Il faut que tu reviennes.
Oui, c'est ça, mais bien sûr. Puis si tu reviens pas, oublie ça, tu vas passer 5, 10, 15 ans sans pouvoir revenir. Là. Sans pouvoir
retourner. Et ta famille...
Puis ta famille est
résolue. En vivra les conséquences.
OK, oui. OK, oui. Oui.
OK. Donc, quand t'as quitté comme tel Cuba, raconte-moi cette journée-là, quand t'as quitté Cuba, définitivement.
J'ai quitté Cuba il y a à peu près 11 ans, ça va bien bientôt.
Raconte-moi cette journée-là.
C'est une journée triste parce que c'est ça, j'ai quitté mon pays, ma culture, ma famille. Je le savais que j'ai parti, mais je ne savais pas. C'est quand que je pouvais revenir. Une chance que j'ai quitté pour ma femme d'aujourd'hui. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, 14 ans. Puis grâce à elle, je suis qui je suis ici. J'ai la salue d'ailleurs. Puis c'est une journée spéciale parce qu'on quitte, on ne sait pas quand on va pouvoir revenir. Tu sais que ta famille est là-bas. c'est dur. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de émotions qui se mêlent entre eux. Là. Puis c'est très difficile. C'est très difficile quand tu embarques dans l'avion, quand tu sais que tu quittes, puis tu dis, OK, là, c'est pas vrai, là. C'est pas niaisard.
Te montrer ton passeport au douanier?
Mon passeport avec ma visa canadien collée dans mon passeport.
Qu'est-ce que le douanier t'a dit?
Il posait des questions, pourquoi la visa, etc. Ça, il te font une quantité de questions. Et pourquoi la visa, c'est quand tu étais marié. Ça, il essaie de vérifier les informations. Puis, si tu as la petite moindre erreur, tu passes dans une petite salle à part, là, puis tu vas passer un bon trois quarts d'heure...
Assez, à te questionner.
Oh oui, assez dur, honnêtement. C'est difficile.
Et là, t'es embarqué dans l'avion.
Oui,
et t'as regardé par le hublot.
Exactement, j'ai embarqué dans l'avion, j'ai regardé par le hublot. Je voyais mon pays s'épierre dans les nuages, puis j'ai fermé les yeux, j'ai pleuré. J'ai séché les larmes, mais j'étais arrivé ici.
À Québec?
À Québec, directement. Ben, j'étais arrivé à Toronto, une escale à Toronto, après ça, au Québec. Ma femme m'attendait avec des amis. Ma femme est enceinte. J'étais arrivé 11 jours avant l'accouchement de ma femme.
Wow.
Parce que c'est ça, le gouvernement cubain, il ne voulait pas me donner, le permis de sortir, la carte blanche, qu'on appelait ça, dans le temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais grâce à ma blonde, puis des relations là, qui est là présentement aussi, là, j'ai pu sortir. Puis je suis arrivé 11 jours avant l'accouchement de mon premier garçon.
T'es arrivé quelle année ici?
J'étais arrivé en 2014, février 2014.
Est-ce que tu es retourné depuis ce temps-là?
J'ai retourné, après c'est ma blonde a couché, j'ai retourné fin 2014, si je ne me trompe pas. La première fois qu'on retourne, c'est là que ça gagne. Parce qu'on rentre, j'ai pensé rentrer tranquille avec ma femme, la poussette, mon petit garçon. Ma femme et mon petit garçon, ils ont passé tout, mais moi, ils m'ont fait passer dans notre petite porte. Vieta! On va te questionner. Là, on a passé quasiment peut-être une heure et quart à poser des questions.
Sur quoi?
Pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu es quitté? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? C'est qui elle? Pourquoi tu es ici? À qui tu viens voir? Etc. etc. C'est quand même assez stressant, honnêtement. Là, c'est tout un stress. À chaque fois qu'un immigrant cubain, je parle moi, je suis cubain, à chaque fois que je dois penser à voyager à Cuba, à retourner à Cuba, c'est tout niveau de stress énorme. Énorme, énorme, énorme. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. Tu rentres, mais tu ne sais pas si tu dois sortir. S'il arrive de quoi, tu ne le sais pas. Si on écoutait mon podcast, si on a vu mes messages sur Facebook, mes commentaires, etc., tu ne le sais pas. Tu es surveillé. Malheureusement, tu es surveillé.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir à Cuba? Qu'est-ce qu'on ne peut pas posséder à Cuba aujourd'hui? Quand on allait à Cuba,
ouais,
on pouvait pas avoir des radios transistors, pas le droit d'avoir des CB.
Ah non, aujourd'hui, c'est pareil. Puis on rajoutait...
Qu'est-ce qu'on peut pas avoir?
Pas des drones. Des petits drones de jouets, ça oublie ça.
Pas le droit.
Pas le droit. Walkie-talkie non plus.
Tout ce qui permet de faciliter une évasion.
Oui, exactement. Puis la communication avec l'extérieur. Surtout, on s'entend, les États-Unis.
Qui paye les cellulaires alors? Est-ce que tes parents ont des cellulaires? Est-ce que tes amis ont des cellulaires?
Oui, mes amis ont des cellulaires.
C'est le régime qui vend des cellulaires?
C'est le régime qui vend des cellulaires. C'est les marchés noirs. Il y a beaucoup de Cubains qui sortent à l'extérieur, entre guillemets. Bien sûr que ces mondes-là, la plupart sont des collaborateurs du gouvernement, là, on s'entend, pour sortir en République dominicaine, en Mexique, au Pérou, Colombie, même en Floride, puis revient. Ils amènent des stocks pour revendre. Puis c'est là que le monde cherche des cellulaires. Les gouvernements aussi, ils vendent des cellulaires. Puis on s'entend que tout est surveillé. Tout.
Quelqu'un veut se sauver de Cuba. C'est quoi le truc? C'est encore un bateau? Est-ce que les gens se sauvent encore? Ceux qui décident de quitter Cuba, comment le font-ils?
Depuis 2021, à Cuba, là, sont partis à peu près 1 500 000 personnes. Personne, tout le monde sait.
Ils sont partis où? Comment?
Il y en a deux moyens. Bateau, ça c'est toujours, vers la Floride. Puis il y en a beaucoup qui prennent un petit visa de tourisme au Pérou, Colombie, Argentine, n'importe quel pays.
Tu as le droit.
Oui, tu as le droit, entre guillemets, comme je vous dis tantôt. C'est des collaborateurs, en guillemets, là. Mais des collaborateurs qui sont tannés. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec leur famille en Argentine, puis ils font au Brésil ou whatever. Puis ils font toute la traversée à pied ou en autobus. On appelle ça des coyotes. C'est la même chose que la frontière mexicaine. On a tous des contacts. Ils traversent l'Amérique latine au complet. C'est des mois et des mois de traversée pour arriver finalement aux États-Unis. C'est le seul
moyen. Est-ce que tu en connais?
Oui. Oui, je connais. Une de mes dernières amies, il a pris un visa pour la République dominicaine pour au moins avoir son oncle qui habitait là depuis des années. Puis lui, il a décidé de rester. Il était légal là-bas, mais il a son travail, puis il travaille bien. Puis en couple de mois, il a fait venir sa femme avec son petit garçon. De la même façon. Visa tourisme, hôtel. Lui arrive à l'hôtel, il prend sa femme, son petit garçon, il légal, pouf, c'est fini. Disparaît.
Qui peut sauver Cuba?
Les Cubains. C'est juste les Cubains qui peuvent sauver Cuba. Le monde, il parle, que c'est les Américains, que c'est une autre ingérence étrangère. Oui, bien sûr qu'on a besoin de l'économie, on a besoin de l'argent. Mais les seules personnes qui peuvent sauver Cuba, c'est les Cubains. Mais malheureusement, pour une personne à Cuba, on a 7 policiers et 15 militaires, puis 14 collaborateurs. C'est ça le gros problème présentement à Cuba, là. Puis depuis 1959, là, honnêtement. Là. Ils sont trop surveillés. Il y a trop de corrompus, il y a trop de collaborateurs du gouvernement. Il y a trop de monde payé par les gouvernements pour surveiller le peuple, pour opprimer le peuple. C'est ça la répression, c'est ça la dictature.
Mais on peut arriver à un moment donné à un plancher, on va arriver à un moment donné à une extrémité de cette crise-là. Les gens ne seront plus capables à un moment donné, quand tu as faim, quand tes enfants ont faim, quand les gens meurent. Est-ce qu'on a atteint cette limite-là? Est-ce qu'on s'approche de cette limite-là?
La limite est déjà passée, honnêtement.
Parce qu'on entend des casseroles dans les rues.
Oui, oui. Le 11 juillet 2021, c'était la première manifestation après les 1961. La première grosse manifestation. Le peuple cubain, au complet, était dans les rues. Presque. Parce qu'ils ne sont plus capables. Parce que le peuple n'était plus capable.
Puis, comment ça que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là?
Parce qu'il y avait trop d'oppression, trop de réprimandes de la part du gouvernement. Il y en a eu, je pense, que 15 000 morts. Ça, personne ne le parle, par contre. Presque 15 000
la
morts.
La police et l'armée ont tiré sur le monde?
Oh oui, oh oui, carrément. Puis ados, enfants, personnes âgées, le sort, ils s'en balancent comme la corde, là.
Tu le sais?
Oh oui, je le sais. Je l'ai vécu, moi. J'étais allé en prison. À Cuba, là, quand j'étais à Cuba, les militaires obligatoires. 2 ans obligatoires. Quand j'étais au militaire, j'ai fait un commentaire, puis j'ai m'absenté 2-3 jours après le décès de mon grand-père. Puis ils sont venus me chercher, puis j'étais allé en prison 3 semaines. Là,
juste 3 semaines en prison?
Oh oui, 3 semaines en prison.
Comment c'était?
Honnêtement, je préfère être dans la rue ici, là, comme on dit,
un sans-abri,
qui est dans une prison à Cuba. Tout mange rien. Un petit morceau de pain dégueulasse avec un petit verre de l'eau avec de la cassonade, puis une fois par jour, puis arrange-toi. C'est épouvantable. Puis la torture. J'ai pas subi ça, mais j'ai des amis qui ont subi la torture.
C'est quoi la torture?
Il est assis dans une chaise tout nu, puis avec dans une chambre froide, puis un petit goutte d'eau dans la tête, ou 2 minutes, ou il prend des photos de ta famille, puis il te menace. Amène carrément ta famille devant toi dans une vitre, puis tu vois ta famille avec un pistolet dans la tête. Il y en a beaucoup, beaucoup de façons de faire la torture, mais c'est surtout la torture psychologique. C'est la pire, c'est le moins. La torture psychologique, c'est épouvantable. Surtout quand on parle de la famille, quand on parle de tes enfants, des cousins, cousines.
Est-ce que ta famille subit de la torture psychologique actuellement?
Oui. Oui. Oui, ils subissent la torture psychologique. C'est sûr que, mais je vous dis tantôt, là. J'ai fait un petit post Facebook, dans mon Facebook, puis mon parrain me chicanait. Fais attention à ce que tu dis.
Est-ce qu'il a raison?
Oui, il a raison. Parfois, je suis un peu déconnecté, dans le sens que ça fait 11 ans que j'ai quitté le pays, mais je dois me rendre compte encore que je suis lié. Heureusement et malheureusement.
Avec tout ce que tu racontes sur le communisme, la torture, la misère, la violence, qu'est-ce que ça te fait comme Cubain? Quand tu vois des Québécois dans les rues, la décroissance, on veut du communiste, tu vois le logo du Parti communiste, tu vois le marteau et l'enclume, ça, tu le vois dans les rues, là, dans des manifs socialistes. Qu'est-ce que ça te fait?
Ça me fait. C'est une drôle de sensation. À chaque fois que je vois ça, là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, puis en même temps, j'ai le goût de...
T'as le goût de dire bande d'ignorants.
Oh oui. De les traiter des tout de les noms, parce qu'eux autres, ils savent pas.
Des petits bourgeois.
Exactement. Ils n'ont jamais vécu la famine, ont jamais vécu la misère, ont jamais vécu la torture. Ils savent pas de quoi ils parlent. Ils sont nés dans la richesse, ils sont nés avec un petit pain dans la bouche à tout le jour. Papa et maman, ils t'ont payé les études, tu avais des études gratuites, une société qui t'accueille. C'est ça qui me fait plus peur, là. Je jase beaucoup sur mes réseaux sociaux, surtout sur Twitter X. S'il vous plaît, Québec, Québécois, les Québécois, arrêtez avec ça. Québec solidaire, un petit parti des PSPP puis les PQ. Oubliez ça. Si on s'en va complètement là, on est foutu. C'est pour ça, l'avenir. Le communisme, jamais, j'a jamais marché, puis va pas marcher nulle part. Dites-moi, quel pays communiste a réussi dans la vie? Aucune. La Chine n'est pas communiste. La Chine, c'est juste le parti communiste pour contrôler, mais la Chine n'est pas communiste. Vietnam non plus. Là.
Il y a de l'abondance en Chine.
Ben oui.
C'est ultra-capitaliste.
Ben oui. Pis...
On est entouré de trucs chinois actuellement.
Exactement. C'est la Chine qui contrôle quasiment le marché mondial.
Oui.
Puis, non, c'est ça, ça m'écœure, là. J'ai vu l'autre fois passer la publicité, là, le nouveau Parti communiste de Québec qui fait ça, de la propagande. J'aimerais juste faire une petite invitation à ce monde-là. Venez me parler. Vous voulez savoir c'est quoi le communisme? Venez me parler, je vais vous donner quelques petits conseils, là. Vous allez voir qu'après une heure et demie d'une bonne jazette, là, vous allez avoir des doutes. Parce que c'est pas ça. C'est pas ça, tous pareils, on partage tout. C'est pour ça.
Et qu'est-ce que tu crains d'ici la fin de l'année à Cuba?
Je ne sais pas, honnêtement. Là, je ne sais pas.
En
mais
quoi ça peut être pire?
En quoi ça peut être pire? Je ne sais pas. Honnêtement, là, je vais être bien honnête avec vous. J'ai aucune idée en quoi ça peut être pire. Parce que pire que ça, j'ai jamais vécu. J'ai vécu la crise de 91 après la chute de la URSS. Qu'on est passé d'avoir un régime quand même, en guillemets, correct, avec ton salaire, tu vivais. Puis après ça, d'une journée à l'autre, pouf, t'es tombé dans la misère. Et j'avais quoi, 8-9 ans, et j'ai dû commencer à travailler avec mon père, mon grand-père, couper du bois, les travaux forcés pour amener la nourriture chez nous. On a passé beaucoup des crises économiques, mais aujourd'hui, depuis que Fidel est mort, puis que Raoul a laissé le pouvoir à Miguel Díaz-Canel, puis on s'entend que c'était juste une petite marionnette de Raoul, parce que Raoul est encore là, puis la famille Castro. Ces mondes-là n'ont pas peur de tuer le monde. N'ont pas peur de tuer le Cubain. N'ont pas peur de détruire le pays. Ben, en fait, il n'y a rien à détruire. Et déjà tout détruit. Je ne sais pas en quoi ça peut être pire. En quoi ça peut être pire? Peut-être plus de violence, plus de meurtres, plus de monde en prison. Et cette semaine, ça faisait quoi, 12 semaines, la grosse crise énergétique, pas de courant. Puis le président de Cuba, là, Díaz-Canel, il dit « Oui, vous pouvez manifester tranquillement, mais nous, on va lancer tout le monde dans la rue pour contrôler. » Mais est-ce qu'on peut manifester ou pas? C'est ça mon point.
Il vit vous, les dictateurs? Il vit vous, les dirigeants du régime?
À l'avant, normalement.
Ils vivent en parallèle du peuple?
Et puis en parallèle. En parallèle complètement. Ou ça, ils sont riches. Leurs fils, petits-fils, ils vont dans des universités ailleurs dans le monde, des voyages, et des chars neufs, la bonne nourriture. Ils manquent jamais de rien. Puis c'est juste la fiction. Pour eux, c'est juste la fiction. Ou ça, ils sont plus capitalistes que les États-Unis. Malheureusement, c'est ça. C'est ce monde-là qui contrôle le pays. Puis c'est qui souffre toujours? Ben, le peuple cubain. Parce que la dictature, l'embargo, c'est juste pour les peuples. C'est pas pour les dictateurs.
Merci beaucoup, Tony.
Ça me fait plaisir.
Morais, le podcast.
C'était Morais, le podcast. Dans les prochaines semaines, on vous prépare quelque chose de très intéressant. Entrevue exclusive. Ben oui, je vous l'annonce là. Avec l'épouse de Pierre Poilievre, Anaïda Poilievre. Entrevue qui sera enregistrée dans les prochains jours, dans un endroit gardé secret, mais qui est pittoresque quand même, à Québec. Une entrevue personnelle. Qui est Madame Poilievre? Qui est-elle? D'où vient-elle? Son pays d'origine? Ses valeurs? Son arrivée au Québec? les premières écoles, les amis, l'intégration, la francisation, Montréal, les premiers pas, etc., la rencontre avec Pierre Poilievre, ses valeurs, etc., etc. On va vous présenter ça dans deux semaines dans Morel le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs!